RMC, Église d'aujourd'hui,
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous attend après l'after sur RMC. Une émission qui est proposée, vous le rappelez, par le diocèse de Monaco. Ce soir, je vais vous faire un voyage dans la Méditerranée. Je vais le faire avec Geneviève Chauvel, qui est mon invitée. Bonsoir.
Bonsoir.
Qui est journaliste, romancière et qui a été grand reporter et photographe de guerre. Elle a couvert plusieurs conflits mondiaux. Et en plus, elle connaît très bien le monde arabe, ayant grandi en Syrie et en Algérie. Et comme je le disais, elle est aussi un écrivain. Et son dernier livre a pour titre « Mission en terre barbaresque, l'incroyable destin d'un prêtre consul chez les marchands d'esclaves de la Méditerranée ». C'est un livre qui a paru chez Arteje. Vous parlez justement de l'incroyable destin d'un prêtre que pratiquement personne ne connaît. Qui est
non.
ce prêtre ?
Alors, ce prêtre, bien sûr, c'était le disciple préféré de, complètement formé par saint Vincent de Paul. Mm-hmm. À l'époque, c'était donc au XVIIe siècle, et saint Vincent de Paul, il ne faut pas l'oublier, avait été lui-même, et il a donc fondé des tas de choses, on le connaît pour ça, mais une œuvre que l'on ne connaît pas et dont on ne parle jamais, c'était l'œuvre des esclaves. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, il y avait déjà beaucoup de marins qui partaient en mer et n'étaient pas sûrs de revenir chez eux. La Méditerranée était un coupe-gorge. Il y avait tous ces barbaresques qui étaient dans...
Qui étaient les barbaresques, déjà, pour comprendre à l'époque ?
Alors, c'était les Turcs qui habitaient donc là...
Qu'on appelait comme ça...
C'est ça, oui, la régence de Tunis, ouais. Et la régence d'Algérie. Qui était soumise à l'Empire ottoman. Mmh. Et ça, c'était le fameux Barberousse qui, déjà au XVIe siècle, était devenu roi d'Alger et avait fondé, si vous voulez, avait organisé toute une compagnie, une espèce d'entreprise de pêche, mais c'était surtout de corsaires, pirates, et alors ils écumaient la mer. Oui, la pêche. On allait pêcher du
poisson.
On allait pêcher des chrétiens, vous voyez. C'est ça, ils partaient. On peut pas. Aujourd'hui, on dirait la pêche aux blancs, mais à l'époque, on disait la pêche aux chrétiens. Mm-hmm. Parce que le sud de la Méditerranée était islamique, était musulman, je veux dire. C'était l'Empire ottoman, jusqu'à la frontière marocaine. Et donc là, déjà en 1604, je crois, Vincent de Paul, tout jeune prêtre, il avait 24 ans, il a été capturé comme ça, il faisait un voyage de Beaucaire à Narbonne, il faut en se venir par la mer, c'est plus agréable que par la terre, et évidemment en mer, ils sont attaqués par les barbaresques, et ils se retrouvent dans un bagne à Bizerte, il va rester 2 ans, aux mains de trois maîtres différents, et il va réussir à s'évader avec un renégat qui l'a ramené à la religion. Mais donc, depuis ce moment-là, il a voulu absolument porter secours à tous ces captifs qu'il a vus, il les gardait en mémoire, c'est une image dont il ne pouvait pas se libérer, et donc il a fondé l'ordre de la mission.
Et qu'est-ce que c'était exactement
Alors, il envoyait des missionnaires. Mmh. Alors, bien sûr, c'était pour des missionnaires dans certains pays, c'était pour apporter la religion. Mmh. Mais là... Dans le cas de ces régences barbaresques, ce sont des pays musulmans, pas question d'aller faire du prosélytisme, car c'était puni de mort. Et la mort, c'était le pal ou le feu.
Oui, donc
c'était
très,
très, très, très dangereux. Mmh, mmh. Et lui, il voulait absolument... Alors, il y avait des ordres rédempteurs fondés par Charles Quint qui venaient comme ça de temps en temps, avec trois par an, et ils arrivaient avec des besaces pleines d'or pour racheter 400 ou 500 chrétiens.
Libérés, en fait.
Pour les libérer, les ramener en Europe. Okay. Mais 400 ou 500, alors qu'à Tunis et Bizerte, il y avait en général un roulement de 15 000 captifs
donc
dans les bagnes.
500, c'était vraiment...
500, c'est une goutte d'eau dans la mer. Oui. Et à Alger, plus tard, on verra, ils seront 25 000. Et là encore... Donc, c'est pour cela que saint Vincent de Paul a créé cette œuvre des esclaves et il a trouvé le moyen, par le biais des capitulations signées par François Ier et Soliman le Magnifique, qui donnaient des privilèges formidable à la France pour le commerce maritime avec les États d'Orient.
Oui, parce que j'imagine que Saint-Vincent de Paul et en tout cas aussi le prêtre protagoniste de votre livre, c'est-à-dire
Jean Levaché,
ils risquaient déjà leur vie parce que quand même, eux aussi, ils prenaient la mer et donc cela a été risqué. Et puis, voilà, on était dans des territoires qui n'étaient pas du tout chrétiens, donc... J'imagine qu'il y avait aussi des
Alors, justement, il a trouvé le système, le moyen d'envoyer des missionnaires qui restent en permanence continuellement sur place. Et c'est par les capitulations, donc qui donnaient le privilège du commerce. Et donc, nous avions des consuls français dans tous les ports qu'on appelait les échelles du Levant à l'époque. Vous savez, tous ces ports de commerce. Et donc, s'occuper de tous les navigateurs, les commerciaux qui voulaient, les entrepreneurs, là, qui voulaient faire du commerce avec les Orientaux, les Turcs. Et donc, dans les capitulations, il voit qu'il y a un codicille qui dit que le consul a le droit d'avoir un aumônier dans son consulat.
En fait, donc, c'était un peu un officier du consulat, l'aumônier chrétien.
C'est l'aumônier du consul. Il ne va pas, ce n'est pas un missionnaire qu'on envoie pour prêcher, un prédicateur.
Il est au service du consul.
Il est au service du consul.
Comme un cuisinier.
Voilà,
comme
un, il fait partie de la maison du consul.
Ouais.
Et donc, il en a envoyé un, le premier, qui était Guérin, Monsieur Guérin, qui, on l'appelait monsieur à l'époque, on disait père Guérin et tout ça, bon, on l'envoie à Guérin, le père Guérin, et qui, au bout de 2 ans, s'entend, a fini très diplomatiquement s'entend avec le bey de Tunis, et établit des relations conviviales, je vais pas dire, enfin, très diplomatiques. Et donc, il obtient la permission d'aller dans les bagnes, justement, pour... Non seulement il est l'aumônier du consul, mais aussi des chrétiens.
Oui.
Or, on admet, il y avait cette tolérance chez les Ottomans que les chrétiens pouvaient pratiquer leur religion à partir du moment où c'était...
Entre eux,
dans l'intimité. Et dans chaque bagne, il y avait une chapelle. Et donc, cette Guérin, avec un frère coadjuteur, Francillon, s'occupe de tous ces gens. Mais il y en a tellement que tout seul, il n'y arrive pas. Alors, il demande à Vincent de Paul de lui envoyer une aide. Et il va lui-même demander au bey l'autorisation de faire venir quelqu'un d'autre. Et le bey lui dit « Oh, tu fais tellement de bien que tu peux faire venir un ou deux, si tu veux, un ou deux de plus, parce que vous faites le bien et on ne peut pas vous vouloir du mal. »
Et Levaché
Alors, Levaché arrive, et à ce moment-là, c'est Saint-Vincent de Paul, qu'on appelait Monsieur Vincent. Donc, Monsieur Vincent le choisit, il vient d'être ordonné depuis 2 ans, il a 28 ans, et il l'envoie à Bizerte, enfin en Tunisie. Il dit d'ailleurs, il va en Barbarie. Alors, ce Levaché qui vient d'être ordonné, tout juste ordonné depuis 2 ans, qui débarque, donc qui prend le bateau, 6 jours de traversée, déjà il n'est pas en bon état, et il arrive à Bizerte, vous rendez compte, le choc de quitter la France et tout d'un coup se retrouver en Barbarie, c'est-à-dire dans un pays totalement...
Après un voyage qui n'était pas comme ce qu'on fait maintenant.
Voilà, exactement, il était sur le pont et a redouté d'être attaqué ça par les barbares. On guettait toute la nuit, et on tremblait, et on priait le Seigneur. Alors, il arrive, il est reçu, tout ça, et là, tout d'un coup, rien que sur le trajet depuis le port jusqu'à le consulat, le consul vient l'attendre, évidemment, à l'arrivée, et là, il passe par le marché aux esclaves, et il a le premier choc de sa vie, il voit tout de suite, il est dans le bain immédiatement, il sait ce qu'il doit faire, les esclaves, et il les voit tout nus, qui sont en vente.
Et comment il faisait à renvoyer ses esclaves? Parce que j'imagine qu'encore une fois, ils devaient retraverser la mer et donc ils étaient encore exposés.
Alors attendez, non, ces esclaves-là, ils étaient là, ils étaient embauchés, ils étaient dans les bagnes. Mmh. Alors certains, justement, étaient réservés pour la chiourme, les autres pour le travail dans les maisons des grands nababs, les notables, des maisons princières, avec 15, 20, 30 domestiques, 50. Le nombre des domestiques révèle la puissance du personnage. Et puis, il y avait aussi des propriétés agricoles en dehors de la ville, et on les envoyait aussi pour travailler en dehors de la ville. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, je dis 15 000 personnes en permanence. Et donc, qui étaient assez maltraités, parce que quand on les prend à bord sur les bateaux, on les attaque, on les déshabille immédiatement, on leur enlève tous les bijoux, l'argent, les vêtements, qui sont tout ça est revendu, évidemment, sur le marché. Et eux, on leur donne quelques liquettes comme ça pour se couvrir et pour travailler. Et donc, et on leur donne une fois par jour à manger, une écuelle de soupe avec un vieux morceau de pain. Et c'est absolument épouvantable. Donc, Levaché décrit tout cela à M. Vincent. Il y a une correspondance, tout ça. Et alors, donc, il va rester 17 ans en Tunisie à s'occuper de ces gens. Mais alors, il va se passer plein de choses. Il va y avoir la peste. Il va, il va risquer de mourir.
Des années très compliquées.
Il y a des tas de choses. Mais il arrive quand même à s'entendre magnifiquement avec le Bey. Il obtient des autorisations pour les prêtres esclaves. Il les fait, qu'on leur supprime le travail, le travail des travaux forcés. Et donc, ces prêtres esclaves, ils reconstituent des églises. Enfin, dans chaque chapelle, les messes, les processions. Donc, les prêtres sont là pour les offices religieux, les vêpres et tout. Parce que, finalement, à tous ces gens qui sont là dans les bagnes, alors, oui, certains captifs qui sont de grandes familles peuvent récupérer des rançons. La famille peut envoyer de l'argent et il reste quelques mois ou un an et ils arrivent à acheter leur liberté. Mais la plupart...
Oui, sur 90%
sont là, ils ne peuvent pas payer la rançon et ce sont des gens quelquefois du petit peuple, des charpentiers, tout ça. Alors très utilisés au maximum par les barbares, par les maîtres. Mais... donc, ces gens-là, ils étaient tentés d'apostasier pour réduire les douleurs, enfin, toutes les punitions qu'on leur faisait subir. Et puis avoir justement un peu de liberté pour avoir un petit commerce, et puis se marier, puis avoir une vie à peu près...
Normale.
Enfin, sans jamais avoir la permission de sortir du pays. Hein. Oui. Ils étaient prisonniers à vie. C'était des dhimmis.
Oui.
Ce qu'on appelle les dhimmis. Et ils payaient en plus un impôt sur ce qu'ils gagnaient pour pouvoir... avoir une activité commerciale, enfin se nourrir. Et donc, voilà que ces gens-là, finalement, pour éviter toutes ces apostasies qui se multipliaient et que ces gens perdent leur âme, donc Levaché, avec Guérin, mais Guérin va mourir assez vite de la peste, justement, il est emporté, il n'a que le frère Francillon avec lui, et tous les deux, ils vont continuer à s'occuper de ces gens. Et il va arriver à faire renaître, si vous voulez, redynamiser toutes ces chapelles qui vont devenir des paroisses. Et dans chaque paroisse, les gens, il y a les messes, il y a donc surtout les confessions, les communions. Et on voit que tous ces gens, finalement, il leur fait comprendre que leur travail, il faut accepter. Il ne faut pas perdre son âme en espérant une petite liberté supplémentaire qui est nulle.
Mais regardez au au-delà.
Voilà, parce que ce sort, si vous voulez, toutes ces souffrances, il faut les offrir en rédemption, en rémission de tous les péchés antérieurs. Donc, l'existence dans le bagne devient rédemptrice et le secours de Dieu. Et alors, tous ces gens, dès qu'ils partent en course, par exemple, les gens qui sont dans la réserve à la Chiourme, dès qu'ils partent en course, ils demandent, et le Père Levaché court pour leur donner la confession et la communion, et ils partent en course avec, ils leur donnent aussi des provisions, et ils, au moins avec l'âme, ils ont le souci de purifier leur âme, parce qu'il y en a qui se confessent tous les jours, parce qu'ils se disent, je peux mourir tout à l'heure.
Donc ils veulent être en état de pureté.
Ouais. Pour arriver devant le Seigneur.
Malheureusement, le temps à notre disposition est bientôt terminé, mais je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que le père Levaché pourrait être un jour canonisé ou tout simplement béatifié?
D'abord, il faut voir une chose, c'est qu'il est arrivé en tant que missionnaire,
oui.
Et avec le hasard, enfin les aléas du hasard, il va devenir consul de France. Et nommé vicaire apostolique par le pape de Rome. Donc, il a ces trois fonctions, missionnaire, consul et vicaire. Donc, les fonctions spirituelles et temporelles. Et alors, en plus, donc, il va 17 ans à Tunis, ensuite à peu près 16 ans à Alger. À Alger, il va mourir en martyr.
Parce qu'il a été...
Il meurt à la bouche d'un canon, ligoté à la bouche d'un canon. Ça, c'est une représailles. Enfin bon, toute l'histoire est dans, le livre. Il faut lire pour comprendre cette mort épouvantable. Et donc, il est mort en martyr, missionnaire, consul et vicaire apostolique. Et donc, il y a eu tout un procès en béatification qui a été présenté, envoyé au Vatican, juste avant la guerre de 14. Mais la guerre a tout arrêté. Et depuis, on n'a jamais ressorti ce procès. Okay, et j'avoue qu'avec ce livre, de le faire connaître, parce qu'il mérite d'être béatifié, au même titre que le père Charles de Foucauld et les moines de Tibérine, car il est mort sur le môle d'Alger, canonné. Vraiment, c'est absolument épouvantable. Et j'espère que notre nouveau pape, Léon XIV, qui est un missionnaire, aura peut-être un intérêt, un petit intérêt pour ce missionnaire qui mérite bien d'être béatifié.
Un pape missionnaire qui fait partie de l'ordre de Saint-Augustin.
Et Saint-Augustin
qui était
En Algérie, donc Constantine.
Un berbère,
voilà. Alors, donc, je crois que tout ce...
La boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, comme vous dites.
Merci beaucoup, Geneviève Chauvel. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Mission en terre barbaresque, l'incroyable destin d'un prêtre consul chez les marchands d'esclaves de la Méditerranée », un livre paru chez Arteges. Vous pouvez retrouver cet épisode, chers amis, sur le site et l'application de RMC. Moi, je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine avec cette émission qui est toujours proposée par le diocèse de Monaco. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.